Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Raison gardée, avec moi au micro Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Et à la technique, Choris, qu'on salue. Alors, pour commencer cette émission de la fin du mois de mai, comme chaque année à la même époque, on a une pensée pour cet événement historique essentiel dans l'histoire de France et aussi un moment important dans l'histoire de la laïcité, c'est la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, on a déjà beaucoup parlé dans notre émission, hein, ce moment à Paris, mais pas seulement, dans d'autres communes aussi, où des personnes ont essayé de construire un nouveau système politique pour plus de justice sociale, plus d'égalité, plus de liberté, et pour la laïcité aussi, déjà avec l'idée de la séparation des Église et de l'État. Vous savez que la laïcité, c'est vraiment le cœur du travail de la Fédération de la Libre Pensée. Eh bien, ces communards ont vu toute leur action dangereuse pour la bourgeoisie, les notables de l'époque, réprimée dans le sang lors de ce qu'on a appelé donc la semaine sanglante, l'armée régulière, comme on dit, c'est-à-dire l'armée de ce qu'était le gouvernement français de l'époque, entre dans Paris et veille à, rue par rue, mettre un terme à cette sorte de révolution qui avait cours. Les communards et puis tous ceux qui passaient par là sont arrêtés ou exécutés, fusillés, et puis ils seront aussi déportés. C'est un événement tragique dans notre histoire qui est l'objet d'une chanson célèbre qui s'appelle « La semaine sanglante », reprise par quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qui est David Vincent. On écoute sa version de La semaine sanglante. La mère à côté de sa fille. semaine sanglante. C'était pour commencer cette émission, un petit retour dans l'histoire qui nous paraissait important. Toujours commémorer le souvenir de ces personnes courageuses qui ont essayé de porter un idéal et qui ont donné leur vie au nom de cet idéal. Et puis, je le disais aussi en rappelant ce qu'étaient les idéaux, les valeurs et les lois de la commune, la séparation des églises et de l'État qui était déjà promulguée par eux. Et on rappelle qu'on fête cette année les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, qui date de 1905. Et en pensant comme ça au Premier ministre actuel, qu'on entend beaucoup en ce moment, aller dire des mensonges à l'Assemblée nationale et dans la commission qui l'interroge. J'ai pensé à un autre chef de gouvernement qui était justement un de ceux qui vont porter la loi de 1905. Alors, on avance un petit peu dans le temps. À la Commune, c'était 1870-1871. Là, je vous emmène plutôt vers le tout début du XXe siècle, avec celui qui avait été surnommé, Charles, je suis sûr que tu sais ça, Émile Combes. Il avait été surnommé
le petit père.
Le petit père Combes. Et pourquoi? Ah, question.
Ah ben, tu as la bonne réponse, je pense.
Parce qu'il avait fait le séminaire, en fait.
Oui.
Il avait fait des études pour s'engager dans une carrière religieuse. C'est des études qu'il a abandonnées. Il a fait des études de lettres, des études de médecine aussi. Et c'est quelqu'un, Émile Combes, donc lui il est né en 1835, qui a été élu vraiment à tous les niveaux possibles des mandats, conseiller municipal, maire, conseiller général, sénateur, et puis au gouvernement, vice-président aussi de la Haute Assemblée. Bon, c'est quelqu'un qui a eu toute une carrière politique très importante, et il s'était distingué quand même par son acharnement au travail. Il avait rédigé notamment pour le Sénat de nombreux rapports, et il intervenait très très fréquemment. Il a fondé le groupe de la gauche démocratique en 1893, et donc il avait été vice-président de la haute assemblée. C'est quelqu'un qui s'est toujours énormément préoccupé des questions d'éducation et du sort aussi des instituteurs. Et vraiment, je trouve qu'il y a des liens assez étonnants. Il plaidait pour qu'il y ait une organisation plus claire du corps enseignant, d'un corps enseignant de l'école publique, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment anticlérical et qui voulait que l'instruction soit prise en charge par l'État et pas par des congrégations religieuses. Et il était convaincu que un recrutement de qualité exigeait aussi une hausse des traitements des instituteurs. Et il a plaidé pour cela. En disant, par exemple, les instituteurs sont en droit de se demander si la République les oubliera éternellement, si la République ne rendra pas à leurs efforts la justice qui leur est due. On pourrait imaginer aujourd'hui des personnalités qui en disent autant et qui agissent surtout de la même façon, parce que lui-même, quand il sera à la présidence du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent de notre Premier ministre, bien veillera à ce que cette hausse des traitements des instituteurs ait effectivement lieu. Voilà, quelqu'un qui a des idées et qui accomplit des actes qui accompagnent ses idées.
Donc si je comprends bien, il y a un gros rattrapage de salaire à faire.
Très gros. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est allé en Algérie dans le cadre d'une commission d'études. Alors, il reste un homme de son époque, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas plaidé, vraiment fait et cause pour une totale égalité entre les Algériens et les colons français. Mais il a quand même rédigé des rapports sur l'enseignement primaire de ceux qu'on appelait à l'époque les indigènes. Il s'est aussi intéressé à l'enseignement supérieur pour les Algériens. Il s'est aussi intéressé au sort des médersas, c'est-à-dire des écoles coraniques, qui avaient été en grande partie démantelées et qui avaient du mal à fonctionner. Et dans ses rapports et dans ses prises de parole, Combes avait quand même dénoncé les préjugés à l'égard de la population algérienne. Il avait dénoncé aussi l'attitude des autorités locales et des colons vis-à-vis des Algériens. Et il avait plaidé pour la mise en place systématique d'une instruction primaire. Alors, pour les Algériens, c'est-à-dire qu'il n'était peut-être pas allé jusqu'à concevoir une école vraiment pour tous de façon égale, mais en tout cas une instruction systématique et non pas la sélection de quelques enfants à qui on aurait donné un peu d'instruction. Il avait plaidé pour le respect des croyances, le respect de la langue aussi, et il avait dénoncé la volonté d'exporter de façon brutale, entre guillemets, la culture française hein, aux Algériens. Il avait préconisé la réhabilitation des médersas, donc qui étaient vraiment en déshérence depuis le début de la colonisation. Et une partie de la presse avait quand même loué ce travail de la part de Combes, même s'il a eu du mal ensuite à faire passer ses idées, et notamment à obtenir les budgets nécessaires pour réaliser ses idées et rendre concrètes les valeurs qu'il défendait. Et puis, bien sûr, il reste dans l'histoire plus connu pour son travail en faveur de la laïcité. Déjà quand il était sénateur, puis quand il est ministre. Il avait présidé la commission chargée d'étudier le projet de loi sur la liberté d'association. Un projet qui était présenté par Waldeck Rousseau, avec qui d'ailleurs il sera en désaccord à un moment donné. Notamment parce que Waldeck Rousseau le trouve agressif et brutal. C'est un reproche qui était fait régulièrement à Combes, qui pouvait avoir peut-être la véhémence d'un homme politique convaincu d'avoir des idées qui étaient respectueuses des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Aussi, c'est un reproche qu'on entend parfois contre certains élus de gauche qui défendent leurs convictions avec force. On lui impute notamment, alors, dans certains textes, bien sûr, sur le ton du reproche, d'avoir refusé d'accorder une reconnaissance à certaines congrégations religieuses pour qu'elles aient le droit de continuer à enseigner. Mais c'est parce que lui était vraiment pour interdire l'enseignement à toute congrégation. Donc il avait travaillé sur des textes en ce sens. Lors d'un échange, par exemple, concernant ce refus d'autoriser une congrégation une congrégation religieuse catholique à enseigner, Combes avait répondu, c'était une congrégation qui s'occupait notamment d'orphelins. Ce n'est pas pour ces orphelins que la congrégation travaille, c'est pour elles, uniquement pour elles, que travaillent ces orphelins. Donc, en inversant la formule. Alors, il a été très critiqué, mais il a été vraiment un fervent défenseur de l'école publique. Il a beaucoup critiqué le cléricalisme. Bon, finalement, c'est le texte porté par Aristide Briand qui deviendra le texte de séparation des églises et de l'État. Mais en tout cas, Combes a été une figure importante de ce combat, rattrapé par un scandale. Il faut le dire aussi, contraint à la démission. Alors, d'une part, un peu une usure de son pouvoir, sans doute, mais aussi ce qu'on appelle le scandale des fiches. C'est-à-dire que on a accusé des personnalités politiques, et on a accusé Combes d'être complice de la chose, d'avoir fait des listes de personnalités en pointant ceux qui avaient d'authentiques convictions laïques et en cherchant afficher, à repérer ceux qui étaient croyants, cléricaux, qui défendaient la religion contre les projets que Combes voulait porter. Donc voilà, ce scandale le poussera à démissionner et il meurt en 1921. Voilà, j'avais envie de parler quand même du petit père Combes.
Bien sûr, il a compté, comme Aristide Briand, je crois qu'il était aussi dans la même équipe, non ?
Oui, 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 c'était...
Et c'était des socialistes, oui. Notamment Aristide Briand.
Oui.
Socialiste qui était à gauche. Alors maintenant, on cherche la gauche chez les socialistes.
Charles, tu as des choses à nous dire sur ce sujet. C'est sûr qu'il est toujours difficile de faire un... Comment dire calquer exactement la situation d'autrefois bien à l'époque contemporaine. Mais c'est vrai que c'était à un moment donné où il y avait une gauche très radicale qui était au pouvoir et qui a agi pour faire avancer les choses. Et on leur doit beaucoup à cette époque-là. Pas assez, sans doute, hein, notamment le discours sur la colonisation, c'est sûr. Il ne s'agit pas d'en faire un éloge sans critique et sans nuance. Mais sur certains points, en tout cas, on leur doit beaucoup.
Bien sûr, ça a permis d'avancer sous la loi de 1905. Mmh. C'est un des débuts. Bon, ça avait commencé avec la Commune, mais peut-être aussi au moment de la Révolution française. Il y avait eu déjà des essais... déjà, en supprimant la monarchie de droit divin, la République française était déjà laïque par le fait qu'il y avait, en principe, un président de la République, il y avait surtout la convention, des députés, il y avait un débat et qui se passait, qui s'est pas toujours passé dans la douceur, c'est sûr, mais c'était aussi les prémices, donc la loi 1905 qui, malheureusement, eh bien, mis en morceaux et continuer d'être mis en morceaux par des financements publics de l'école privée. Et là, il y a encore notre ministre menteur, bon chrétien quand même, mais qui a exonéré donc l'Église catholique de la taxe d'habitation, alors qu'on ne sait pas quoi faire pour trouver de l'argent en ce moment. Enfin, surtout pour la guerre, il y en aura toujours, même pour accueillir des savants ou des chercheurs américains, alors que nos chercheurs, ça c'est encore un autre débat, tu me diras.
Oui, c'est encore un autre débat.
Non, ça n'a rien à voir avec la laïcité, tu me diras. C'est vrai, mais bon, je bavarde un peu, mais c'est vrai qu'on a un gouvernement qui est vraiment à la dérive sur plein de choses, et notamment sur la laïcité. En dehors de Debré, qui a permis le financement de l'école privée, il y a aussi la loi Langue Loupé qui a armé une couche en donnant des subventions aux lycées privés agricoles, par exemple, ou professionnels. C'était une entorse aussi au financement de l'école privée.
Ce que tu dis là sur la taxe d'habitation, c'est quelque chose... parce que moi, j'avoue que je l'ignorais.
Il y a eu une loi qui était passée pour qu'on soit exonéré de la taxe d'habitation.
Oui.
Et
les particuliers, tu veux dire.
Ça, c'est pour les particuliers, mais pas pour les églises. Normalement, l'église n'aurait pas dû en profiter de ça. Et donc, il profite d'être là. Que Bérou profite d'être là pour en mettre une couche à l'église catholique, quoi, à subventionner d'une façon... un peu, détourné, mais c'est toujours un cadeau financier quand même qui est fait à l'Église catholique.
D'accord, tu veux dire que ces écoles sous contrat sont...
C'est les propriétaires de leurs bâtiments, par exemple, qui logent la partie habitation qui ne sert pas normalement à l'école. Mm-hmm. Bien sûr, l'école n'est pas taxée normalement, mais tous les bâtiments annexes, administratifs, logements des enseignants et des... direction aussi de diocésaine, parce qu'il y a une direction diocésaine des écoles privées. Ah, donc ça, ils vont gagner la taxe d'habitation. Quoi.
Oui,
Alors pour en revenir aussi à y penser, on dit toujours la même chose, fonds publics à la seule école publique, fonds privés à l'école privée, abrogation de la loi Debré. Abrogation de la modification de l'article 1407 du Code pénal des impôts. La Fédération nationale de l'Y-Pensée rappelle qu'elle a soumis à l'ensemble du mouvement laïque un plan de sortie du financement public de l'enseignement privé en 6 ans, assorti de 3 propositions de loi pour y arriver. Il est enfin temps d'agir. Bon, c'est ce que je viens de dire là, la suppression de toutes ces subventions qui sont contraires à la loi 1905, si on lit l'article qui est simple comme tout, hein, séparation des églises et d'État, ce qui a permis quand même aux religions de pouvoir fonctionner normalement pour le culte, et d'éviter les guerres de religion, finalement.
Oui.
C'est important, quand même. Ça, c'était une loi qui n'est pas anticléricale. C'est une loi qui permet, justement, aux religions de fonctionner correctement. Mais par contre, comme Victor Hugo, il faut que les églises restent chez elles et que la République soit chez elle, quoi. Mmh. Voilà.
Sur le plan qui a été proposé, notamment par la Libre Pensée, de sortie de ce système de financement des écoles privées sous contrat, hein, on dit bien. On avait fait il y a deux ou trois mois avec José Arias de la Libre Pensée de Moselle une émission. Il nous avait expliqué un peu justement comment ils avaient fait leur calcul pour démontrer comment en six ans. De façon progressive et très, très claire et sans grande difficulté, on pouvait effectivement ne financer que l'école publique. Et puis après, ceux qui veulent faire le choix d'une école privée le font, sûr, avec un contrôle sur ce qui se passe dans ces établissements, puisqu'ils y accueillent des jeunes gens et que la loi est là pour les protéger, avec un respect aussi des attentes, mais avec un financement qui soit uniquement privé. Et ce qu'on voit aussi apparaître avec ce qui se passe actuellement et cette commission d'enquête liée à l'affaire Betaram, mais qui ne doit pas faire oublier aussi ce qui s'est passé avant et ce que traite aussi la commission, c'est-à-dire le lycée Stanislas, enfin, l'ensemble scolaire Stanislas, et le traitement auquel ont droit ces établissements de ne pas être inspectés, en fait, de passer sous les radars. Est proprement scandaleux, pendant que d'autres établissements, qui a eu l'affaire du lycée Averroès, eux sont sous contrôle, ont pu être inspectés à plusieurs reprises de fond en comble sur un temps extrêmement court. Il y a eu toute une émission d'arrêt sur image là-dessus, avec le directeur du lycée Averroès qui explique concrètement comment les choses se sont déroulées. Et on voit bien qu'il y a une volonté de surveiller certains établissements bien plus que d'autres. Et donc, on aboutit à ce scandale qui apparaît aujourd'hui et qui révèle de chaque jour son lot de scandales, puisque, voilà, au fur et à mesure de la commission, on y a appris, par exemple, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse et que nous suivons un peu, que le secrétariat général de l'école privée catholique a le droit, a la possibilité de rencontrer le ministre de façon très régulière, de négocier les moyens, alors que statutairement et institutionnellement, ce secrétariat général n'a pas de reconnaissance officielle. Donc il y a quand même là quelque chose sur le fonctionnement qui est assez étonnant. Et puis on a entendu ces inspecteurs généraux qui avaient rédigé un rapport sur le lycée Stanislas s'indigner de voir comment leur travail avait été balayé grâce à un courrier de transmission du rapport au ministre de l'époque, Bayrou. Un rapport, non c'était pas Bayrou, c'était...
de l'époque,
j'ai oublié de l'époque, non voilà, j'ai oublié déjà, ils vont tellement vite changer.
Je crois qu'il y a Jospin qui est au courant aussi à un moment donné.
Oui, parce que même le lycée Stanislas, il y avait déjà eu des histoires. Et en fait, cette lettre qui accompagne le rapport, très souvent présente le rapport et le ministre se contente de lire cette lettre et ne va pas entrer dans le détail du rapport. Et donc l'écart, la contradiction entre ce rapport qui avait été fait et la lettre qui l'accompagne n'a pas pu être vue. D'autant moins peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas voir, qui ne voulaient pas que ça se sache, qui ne voulaient pas que le scandale explose. Parce que ce qu'on constate aussi quand même, c'est que c'est une certaine partie de nos élus et une certaine partie de la société qui a une certaine conception de l'éducation, qui passe par de la violence contre les enfants. On voit la façon dont l'actuel Premier ministre... évoque le fait de frapper un enfant comme étant une action éducative. On voit aussi qu'ils ont une certaine conception de l'autorité, de la hiérarchie, et puis qu'ils considèrent qu'il vaut mieux étouffer un scandale quitte à détruire des enfants et des personnes pour toute leur vie, plutôt que d'ouvrir les yeux et de dénoncer ce qui doit être dénoncé, parce qu'aussi, il y a une religion à laquelle ils adhèrent et qu'ils protègent ce genre d'établissement, quoi. Ça me paraît assez clair.
C'est tout à fait le Bayrou, il a été élu pendant combien d'années dans la région et apparemment il n'était pas au courant de ce qui se passait à Betaram, alors que sa femme enseignait le catéchisme. Bon, il y a sa fille qui a fait un témoignage aussi un peu particulier, bien sûr, mais il savait très bien. Et je connais des personnes qui ont mis leurs enfants à Betaram parce que c'était une institution réputée pour sa sévérité. Et ça s'arrêtait là, quoi. Et je pense, mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont sortis bien traumatisés, quoi.
On aura peut-être l'occasion d'en redire un mot.
Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs écoles. Même à Nancy, paraît-il, Ah bon, comment donc?
C'est Bon Secours, non?
Ah, non, pas non, Bon pas Secours, bon secours. Chartreux, à Beausserville, qui a un lycée privé technique. Il y a eu des problèmes aussi.
D'accord. Allez, on fait une petite pause musicale. C'est du Jean Ferrat, Charles.
La commune?
Non, non. Quelque chose d'apaisant, peut-être, en tout cas, plein d'espoir.
Que la montagne est belle?
Non, la paix sur terre.
Ah.
Tu connais?
Ouais, oui.
On écoute Jean Ferrat.
Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendres, tranchez leur gorge ouverte, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
RCN, raison gardée avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Nous sommes de retour pour continuer notre émission sur un autre sujet qui c'est une émission qu'on pourrait appeler des mots MAUX et des mots MOTS, parce que j'avais envie, et c'est toi qui m'as suggéré l'idée, Charles, aussi, de nous arrêter sur un mot qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'on a entendu être mis en débat ces derniers temps, qui est le mot islamophobie. Et ça me faisait penser, au niveau international, à ce combat contre les mots qui peut être mené même dans des démocraties qui y ressemblent de moins en moins. Ce combat contre les mots, il n'a rien d'anodin. Je pense qu'on en est tous convaincus. Un mot mal défini, déjà, peut poser pas mal de problèmes. Et on va le voir avec le mot islamophobie. Un mot qui permet de couper la parole à l'adversaire en le dévalorisant, en le discréditant. Je pense, par exemple, au mot wokisme. C'est aussi un mot qui pose un problème, surtout quand, en fait, il renvoie à un concept vide ou flou. Qu'on se garde bien, en tout cas, d'essayer de construire de façon claire et objective. Un mot peut empêcher de penser, de débattre ou d'avoir de la nuance. Et on a vu aux États-Unis comment Trump a, avec ses sbires, élaboré une liste de mots ou d'expressions qui doivent être désormais bannis des documents émis par les agences fédérales, dans leur documentation écrite et aussi sur leur site internet. Et il en limite l'usage d'autres. Alors le New York Times, début mars 2025, a fait une compilation de tous les mémos, toutes les circulaires qui avaient été lancées dans les différents ministères pour essayer de comprendre quel était le périmètre de cette interdiction. Et on constate aussi, alors oui, ça concerne aussi, pardon, le financement fédéral de la recherche. Et alors, la liste est longue, elle avait été publiée dans l'hebdomadaire Le 1, en fin mars 2025. Et si on regarde cette liste, je peux vous donner quelques exemples. Le mot « activisme ». Je ne les donne pas en anglais, hein, je ne me suis pas entraînée pour l'accent, mais une formule qui veut dire le soin d'affirmation de genre, par exemple. Antiracisme, bon, en anglais c'est exactement la même chose. L'expression biologiquement femme ou biologiquement homme, ce sont des expressions interdites. Travailleur ou travailleuse du sexe, c'est interdit. Changement climatique, je suis un peu l'ordre alphabétique en anglais. Changement climatique ou science du climat, c'est interdit. Diversité communautaire ou équité communautaire, c'est interdit. L'expression pertinence culturelle ou différence culturelle, héritage culturel, sensibilité culturelle ou culturellement appropriée, c'est interdit. Diversité, inclusion. Alors, c'est une expression qui dit diversité, égalité, inclusion, justice, qui était abrégée dans certains documents en DEIJ, c'est interdit. Discriminer, discrimination, discriminatoire, interdit. L'expression renforcer la diversité, interdit. L'expression qualité environnementale, interdite. L'expression violence basée sur le genre, interdite. Enfin, il y en a une liste comme ça, en voulez-vous encore? L'expression « soit centré sur les personnes », interdite aussi. Racisme, racialement, justice raciale, inégalité de race, identité de race, diversité de race, race et origine ethnique, ségrégation, sentiment d'appartenance, hop, tout ça à la trappe, à la trappe, à la trappe.
Donc... Alors, c'est pas une obsession, mais quand même, quand il dit le mot « il faut interdire l'expression travailleuse du sexe », alors que M. Trump a bénéficié des faveurs rémunérées, bien sûr, d'une star du porno. Là, il est en train de se faire pipi dessus, là, non ?
Bon, écoute, il n'est pas une contradiction près. Alors, j'avoue que je n'avais pas fait le rapprochement, mais je ne suis pas tellement surprise que tu y penses. Mais en tout cas, c'est très grave, parce que voilà, on le sait bien que dès qu'on touche au langage, on nous empêche de penser, on pense à travers les mots, on se donne une représentation du monde aussi à travers le langage. Et vouloir interdire les mots, c'est d'une violence, d'une brutalité autoritaire incroyable.
Il est interdit d'interdire.
Et c'est assez terrifiant. Alors, nous, en France, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, ce travail sur les mots, De la part de personnes qui veulent nuire au débat ou l'entraver, l'empêcher ou discréditer les personnes, eh bien on le connaît. On avait fait, je crois que c'était l'an dernier, une émission sur la question du wokisme. Qu'est-ce que c'est que le wokisme? Et là, on a entendu beaucoup de débats autour du mot islamophobie.
Eh oui. C'est un mot qui nous est reproché souvent parce qu'on prétend que toutes les personnes qui soutiennent la cause palestinienne sont des islamistes. On soutient l'islamisme et on est des antisionistes. Mais c'est aussi c'est le langage qui est employé pour aussi dénigrer. Alors, quand on voit dans quel état est la Palestine à l'heure actuelle, voilà, puis qu'il y a quelques personnes qui nous ont insultés et traînés dans la boue pendant des semaines, commencent à se rendre compte que là, ça va un peu trop loin. La vengeance n'est plus une vengeance, c'est plus œil pour œil, dent pour dent, c'est un mort et 10 000 ou 20 000 Palestiniens morts pour ça. Hein, c'est La réplique est quand même démesurée par rapport à tout ce qui se passe depuis plus de 77 ans en Palestine.
Ça, et là, tu penses au mot génocide.
Et je pense, voilà. Donc, de l'épuration ethnique qui a commencé des années 1800 et quelques, avec les premières colonies, où il y avait déjà des qui préconisaient que les Arabes dégagent pour placer un État israélien. Ça date des années 1800 et quelques. Hein, voilà. C'est donc l'objectif de toute façon a toujours été d'épurer depuis le début. Mais maintenant, c'est plus de l'épuration ethnique. Il y a aussi toute la partie culturelle qui disparaît. On détruit des lieux de culte, on détruit des cimetières. Et en plus, tout le moyen de vivre aussi, plus de champs, plus d'oliviers, plus rien, plus d'eau.
Il y a une famine terrible
qui se passe.
Sur la bande de Gaza.
C'est monstrueux ce qui se passe là. Et il y a quand même maintenant des personnes qui disent que là, maintenant, Israël, elle perd toute crédibilité au niveau humain, quoi. Et il va être mis au banc de la société, comme a été mis au banc de la société à un moment donné, des pays comme l'Afrique du Sud, au moment de l'apartheid, quoi. Entre autres, quoi. Mais c'est vrai que c'est les autres guerres ailleurs qui se passent, comme au Soudan, ou qui sont à peu près du même type aussi, malheureusement.
Et on sait que dans les projets de loi, il y en a une qui a été discutée et dont la formulation permettrait de faire tomber sous le coup de la loi quelqu'un qui exprimerait une position antisioniste, par exemple.
Oui, hein.
Ça, on sait que c'est un projet qui a été défendu et qui a été voté parfois par des députés dont on pouvait s'attendre à autre chose. C'est un peu surpris. Et puis, on a parlé aussi beaucoup d'islamophobie à la suite du meurtre d'Aboubacar Cissé. Il y a eu des querelles aussi autour de l'emploi de ce mot. Certains en contestant la pertinence, d'autres au contraire essayant d'expliquer qu'il faut utiliser ce mot si on veut comprendre la situation, notamment en France, de nos concitoyens qui sont de confession musulmane.
Nommer l'islamophobie dit une personne qui s'appelle Ali Mosfa, il est maître de conférence sur les faits religieux à Lyon, dans l'Université catholique de Lyon. Donc, c'est un enjeu essentiel contre les violences faites aux musulmans. Et il dit par rapport à l'assassinat de la mosquée de Grande-Combe, a suscité des réactions politiques dissonantes. Tandis que le Premier ministre dénonçait une ignominie islamophobe, d'autres membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, critiqué pour sa réaction tardive, ont refusé cette qualification. La controverse sur les mots met en lumière un enjeu plus profond. Pourquoi les violences visant les musulmans peinent-elles à être reconnues? C'est vrai que dans les rapports parlementaire qui s'appuie sur la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur rappelle que les actes anti-musulmans souffrent d'une sous-déclaration massive liée à la banalisation des faits, de la méfiance envers les institutions et l'absence de qualification systématique du mobile discriminatoire. Ce traitement statistique contribue à minimiser l'ampleur réelle du phénomène, limitant ainsi les réactions politiques et médiatiques proportionnées. Alors, je ne vais pas tout lire, mais...
Oui, c'est une analyse intéressante.
Mais par exemple, pour en revenir
Il signale, alors, pendant peut-être que tu retrouves le passage que tu voulais évoquer, dans ce document de M. Ali Mostfa, qui est donc maître de conférence, il fait allusion à un rapport, à un document de la Commission des lois dans une séance thématique de contrôle qui date de mars 2025. Alors, je ne connaissais pas ce document, on le trouve en ligne, comme beaucoup de productions de nos élus. Et alors que les médias vont nous faire... Des flash infos et des émissions en long, large et en travers sur le rapport Retailleau concernant les frères musulmans, eh bien on n'a pas tellement entendu parler de ce rapport-là, qui est un rapport assez court, construit par trois députés, une socialiste, une écologiste et un député de Ensemble pour la République. Mmh. Qui porte, donc c'est une séance thématique de contrôle, haine anti-musulman, islamophobie, qualification juridique et politique publique de lutte contre ces discriminations. Et effectivement, le rapport commence par ce qu'évoque ce chercheur, c'est-à-dire de signaler qu'il y a une baisse du nombre d'actes islamophobes, et au début du rapport, ils le mettent entre guillemets, mais en disant qu'il ne fallait pas se réjouir de cette baisse, parce que ce chiffre n'est pas révélateur du nombre exact d'agressions qu'on peut considérer comme des agressions révélatrices d'une haine contre les musulmans ou d'actes anti-musulmans, mais qu'effectivement, les gens ne vont pas porter plainte. Ils ont peur d'être mal reçus par la police, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec la représentation que l'on peut avoir des forces de l'ordre. Ils pensent que ça ne servira à rien. Et ils font dans le rapport le lien d'ailleurs avec la situation des femmes victimes d'agressions sexuelles ou de viols, qui, pour les mêmes raisons, ayant peur d'être mal reçues, ayant peur de ne pas être entendues, ayant peur d'être, elles, mises en cause comme étant la source qui a pu conduire à telle ou telle agression, eh bien, renoncent à faire entendre leurs droits et à porter plainte, à signifier ce qui leur est arrivé. Et ce rapport est vraiment très, très intéressant, parce que justement, sur le mot, en fait, il tranche en disant il y a un usage du mot qui fait que finalement, aujourd'hui, bien sûr, on peut discuter islamophobie, si on prend l'étymologie, c'est la peur de l'islam, c'est-à-dire on peut considérer que, je sais pas, un discours, des valeurs qui sont liées à une religion nous font craindre quelque chose ou nous font peur, et que ça, c'est, chacun est en droit de le faire, mais ils le disent aussi que dans notre langue courante, parler d'islamophobie, c'est un mot pour désigner une peur ou une haine des personnes musulmanes, ou supposées-elles, à cause d'un nom, à cause d'une tenue, à cause d'une apparence.
Mais aussi des actes des islamistes, il ne faut pas non plus négliger le fait que y a l'islamiste est aussi, comme toutes les religions, avec les radicalisés qui commettent des actes horribles. Hein. Si, c'est ça. Donc, le problème, c'est l'amalgame qui est fait. La plupart des musulmans français, la plupart des Arabes français qui pratiquent ou non le culte sont majoritairement contre les actes de violence. Ils sont contre les guerres aussi. Le problème, il est là en France, c'est qu'on appuie toujours sur le côté violent de l'islam radical et comme on peut voir aussi malheureusement en Iran, en Afghanistan, et aussi les faits de terrorisme en France, de profs qui ont été aussi assassinés. C'est vrai que ça peut faire peur, il ne faut pas non plus l'oublier, ça ne peut pas non plus être angélique à ce point-là, hein, et on n'est surtout pas angélique à ce point-là, puisqu'on refuse toute violence.
Donc justement, il rappelle, alors il propose cette définition-là de l'islamophobie en disant ce n'est pas la critique autorisée d'une religion, là, ce qu'on peut faire, mais ce qu'on entend par là, c'est souvent la peur, la haine ou l'hostilité ou la violence envers des institutions ou des individus supposés musulmans. Alors effectivement, dans l'analyse des chiffres, ils font le lien très net entre la hausse des actes contre les musulmans et les moments où la France ou à l'international ont été commis des attentats islamistes. Hein, là-dessus, ils sont très très clairs. Ils font aussi le lien quand même avec le passé colonial, c'est-à-dire qu'il y a aussi un racisme qui se manifeste, qui est lié au passé colonial de la France. Eux, ils réussissent à voir quand même aussi notre histoire de façon
objective.
Assez objective. Et ils ont fait venir, lors de cette commission, toute une série de personnalités, et notamment des associations qui essayent aujourd'hui de prendre le relais, puisque les personnes ne vont pas voir la police pour signifier les agressions dont ils ont pu être victimes. Mais ils ont écouté ces associations qui essayent justement d'entendre cette parole et puis d'inciter les personnes à aller porter plainte pour que ces agressions ne soient pas banales et qu'on ne se réfugie pas derrière des chiffres qui seraient rassurants. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, c'est qu'il rappelle que s'il n'y a pas de catégorie juridique spécifique, et eux dans le rapport d'ailleurs disent qu'ils ne préfèrent pas trancher mais que peut-être le débat peut s'ouvrir, mais on sent qu'ils n'y sont pas favorables, ils rappellent en fait qu'il y a déjà un cadre légal qui protège les personnes. Et ça c'est vrai que c'est souvent quelque chose c'est pas qu'on oublie de le dire, mais c'est que les hommes politiques qui ont besoin de projecteurs, qui ont besoin de se faire voir ou de parler à une certaine frange de leur électorat pour devenir, je ne sais pas moi, chef d'un parti,
élu,
candidat au présidentiel, élu ou que ce soit, veulent jouer les gros bras et dire qu'eux, ils vont révolutionner les choses et apporter la loi qui manque, etc. Alors que nous avons déjà tout un arsenal légal pour véritablement protéger les personnes, alors qu'est perfectible sans aucun doute. Mais dans le rapport, il le rappelle que, par exemple, l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 condamne la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Voilà, est dans les mots là.
Ça existe.
Il n'y a pas besoin. C'est le problème, c'est qu'on fait la séparation entre anti-sionisme, anti-musulmans, alors que ça fait partie du racisme tout court. Et que les lois sont déjà bien faites depuis très longtemps, mais qui sont mal appliquées. Et de la manipulation politique pour justement désigner. Parce qu'une population qui gêne, apparemment, alors qu'elle apporte beaucoup de choses à la France, notamment au niveau du travail, de la culture aussi. Bien sûr, il y a des voyous partout. Les voyous, ils montrent l'exemple aussi au niveau du gouvernement. On a déjà vu ça. Il n'y a pas personne qui a les mains propres là-dessus.
Et moi, vraiment,
ceux qui avaient les mains propres et la tête haute, par exemple, pour le détournement d'argent public, ils sont forts aussi, ceux-là.
Et ce qui est vraiment, je trouve...
Et aussi pour détourner la loi, parce que la justice n'est pas bonne pour elle.
Ce qui est étonnant aussi, quand on voit le traitement médiatique des différents rapports, ce rapport, il est quand même assez équilibré et il pointe la responsabilité des médias dans la haine contre nos concitoyens musulmans, et le rôle des politiques. C'est écrit noir sur blanc et de façon extrêmement claire, peut-être pas virulente ni véhémente, mais en tout cas c'est très très clair. Et notamment, quelque chose nous à la Libre Pensée qui nous a beaucoup préoccupé, c'est la loi séparatisme, dont on a dit à quel point elle était dangereuse, à quel point elle visait en fait... certaines associations en particulier, et notamment celles qui sont liées au culte musulman. Et dans le rapport, ils disent bien que la loi, elle a bien été comprise ainsi par les associations qui devaient s'y plier. Alors, on rappelle que cette loi, dite loi séparatisme, c'est un contrat d'engagement républicain auquel doivent souscrire les associations et fondations qui sollicitent une subvention publique. Alors que le séparatisme, on parlait tout à l'heure de Betaram, etc. Enfin, le séparatisme, où est-il exactement ? Il n'est pas là où, en tout cas dans la presse, on tendrait, dans les médias, on voudrait nous le faire voir. Et il y a une sorte d'injonction permanente qui est faite à certains des citoyens français de faire... acte de dire, de s'engager à une loyauté envers la République, ce qu'on ne demande à personne d'autre. Et le rapport là-dessus est vraiment très clair sur ce dévoiement d'un référentiel républicain et la façon dont la laïcité, ce principe-là de laïcité, est toujours utilisé. On en a entendu parler encore dernièrement avec la question du voile. Le président Macron a été interrogé là-dessus.
La baïa, etc.
Dans le rapport, il y a une formule des rapporteurs, ils disent « Les principes de la République cèdent parfois la place à un discours privilégiant ses valeurs, entre guillemets, parfois excluantes, tandis que la laïcité prend des allures de paternalisme envers des musulmans qu'il faudrait aider à être plus libéraux. Et ils disent que, eux, rappellent que la laïcité doit être émancipatrice et non excluante, donc elle doit permettre avant tout la pleine autonomie des personnes par rapport à la communauté, que celle-ci soit familiale, religieuse ou nationale. Parce qu'il faut aussi rappeler que ce principe de laïcité, il permet à quelqu'un de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de choisir son mode de vie. Et ce qu'on dit souvent, nous aussi, c'est que ce n'est pas une police du vêtement. On peut traiter certains sujets, mais il faut aussi arrêter de vouloir toujours utiliser et tordre ce qu'était cette loi. Et puis, un deuxième grand point sur le rôle des médias dans cette islamophobie, qu'il y a une confusion permanente, disent-ils, entretenue dans les médias, entre expression religieuse, allégeance à l'islamisme et au terrorisme dont tu parlais, et qui est souvent traité comme un continuum. Et concernant, par exemple, la question du voile et des tenues des femmes, hein, les rapporteurs disent que c'est une partie du débat qui est extrêmement violente pour les femmes musulmanes, et que dans le traitement médiatique, alors sur certains médias évidemment, il y a une sorte de lien qui est toujours fait de manière immédiate entre une femme qui porte un voile et le soupçon de radicalisation, d'allégeance à des organisations terroristes, etc., de soumission
à la religion, soumis à l'homme, à la religion.
Donc le rapport propose aussi toute une série de solutions possibles, préconise par exemple de mieux former la police, les fonctionnaires dans la police et les enseignants, mais aussi les magistrats, l'ensemble des agents de l'État qui peut être amené à traiter ce sujet et à recevoir notamment des plaintes et d'autres choses, notamment sur la surveillance des propos en ligne et la surveillance des médias qui fait défaut, disent-ils. Et ils ont pointé quelque chose alors, qu'on a aussi souvent observé, c'est que pour ne pas tomber sous le coup de l'ARCOM, dans ces médias d'extrême droite, très, très clairement, qui ont pignon sur rue, ils savent que pour ne pas se faire attraper par l'ARCOM, il ne faut pas qu'ils disent les musulmans, mais s'ils disent certains musulmans, eh bien ça suffit pour passer sous les radars. Donc les rapporteurs...
Ils n'ont pas toujours cette précaution, je pense. Hein.
Oui, je crois quand même, ça m'avait déjà frappé quand même, cette façon de se rattraper dans une phrase pour dire « pas tous, je dis certains
oui, », voilà, oui,
comme
oui,
ils font toujours pour avoir l'air, voilà, avoir l'air d'être juste, d'être dans la nuance, d'être ouvert au débat, etc.
Et voilà. Alors, on sait comment ils font. L'islamophobie n'a pas suffi, Monsieur Retailleau nous a sorti un débat sur un rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France, présenté en Conseil de défense, et une offre commandée et exploitée par des calculs politiques. Quand l'intégrisme religieux et l'intégrisme laïque se nourrissent l'un de l'autre. Oui. Bon, je vais quand même répéter un peu ce qu'a dit. Là. Donc, c'est un article de Roger Martelly qu'on peut trouver sur Regard en ligne. Alors, donc, parlant de Retailleau, l'histoire réclame de la République et de la laïcité. Mais de quelle République parle-t-on ? Celle qui stigmatise ou celle qui rassemble ? Quelle laïcité ? Celle qui attise les conflits ou celle qui apaise ? Le rapport se veut rassurant pour une nation inquiète. Mais en focalisant les peurs sur une fraction de l'islam, il risque de déboucher sur une seule issue : l'angoisse, le refus de l'autre, le ressentiment. Autant dire au triomphe de l'extrême droite. Que Bruno Retailleau ait envie de chasser sous les terres du RN, on se prépare à la grande union sacrée de toutes les droites, relève de son choix, mais qu'on ne mêle pas l'idée républicaine et le pari laïque de Briand et de Jaurès à cette infamie.
Donc tu dis sur le site de Regard, au pluriel,
oui.
Un article de Martelly,
M-A-R-T-E-2-L-I.
Oui. Avant qu'on termine sur une dernière chanson de Kerry James, est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, Charles, nous donner les références de l'ouvrage, ce que tu parlais de la Palestine tout à l'heure, un ouvrage important sur ce sujet ?
Alors, le titre de ce livre, c'est « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». Il est écrit par un Israélien, bien sûr, qui s'appelle Ilham Pappé, se trouve dans toutes les bonnes librairies. Donc, c'est les éditions La Fabrique Édition. D'ailleurs, ça fabrique plusieurs documents sur la Palestine. Hein, oui.
Et dernièrement, la juriste en droit international, Madame Chemillet-Gendreau, a sorti aussi un petit livre pour expliquer comment la disparition de la Palestine faisait partie du projet initial. On vous remercie pour votre écoute et on finit avec Kerry James, une chanson de 2009 qui malheureusement est toujours d'actualité.
De leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie, mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. L'héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observer le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux, sa fierté brille comme le soleil, même par ton rage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je peux pas ne pas me positionner. C'est un appel à partager leur peine, mais les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On nous nourrit par l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent, j'écris avec le cœur et la raison.
All be Hosen be all be
Andy
Hosen be all be
Lama o fucking deep in us to Andy Rova be all be Wa ana
Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante aux frontières des checkpoints. La liberté est agonisante. J'écris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare des familles. Les colonies se multiplient sous l'œil passif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'écris ce texte, plus des trois quarts ont été pillés. Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non voyante.
L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. Compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par les bombes, d'assassinats ciblés, foudroyant les civils, d'emprisonnements arbitraires. Dites-moi, pensez-vous que je te ferai me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage.
Raison. Raison vit en lui,
Andy.
Raison vit en lui,
la main au fucking filthy nasty, Andy. Raison vit en lui
avec le cœur et la raison.
Wa ana uhib beaucoup.
Avec le cœur et la raison.
Wa ana wahib beaucoup.
Avec le cœur, mais aussi avec la raison. Je peux pas laisser terminer ce morceau sans préciser que ce texte ne prend pas à partie une communauté, mais vise la politique d'un état et le silence complice du monde dit libre. Je suis conscient que dans chaque camp, je dis bien dans chaque camp, il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, qui se battent pour la paix et la justice. Je ne peux que saluer leur courage et leur sincérité. Je déplore la mort des innocents de part et d'autre. Qui peut se réjouir de voir mourir des enfants? Eux qui n'ont pas choisi les héritiers d'un monde que les adultes leur lèguent. J'écris ce texte, manifeste de mon soutien actif, mais pacifique aux Palestiniens. Pas uniquement parce qu'il y a parmi eux des musulmans, car contrairement aux idées reçues et ancrées dans l'inconscient collectif, les Arabes palestiniens ne sont pas tous musulmans. Je les soutiens parce que j'estime, avec le cœur et la raison, qu'ils subissent une injustice et qu'il est important pour eux que le monde sache, en attendant que le monde bouge. Il ne s'agit pas d'importer le conflit en France de manière stupide et violente, en s'attaquant injustement aux personnes, à leurs biens et en dégradant des cimetières. Ce sont là des choses que je ne cautionne pas et que je condamne clairement. J'espère toujours voir la paix dans la justice se lever à l'horizon. Et j'écris avec le cœur et la raison.
Raison vit en lui.
Raison vit en lui. Wa ana wahib beaucoup. Wa ana wahib beaucoup. Wa ana wahib beaucoup.